Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Nous parlions à l'instant d'un accord commercial entre les États-Unis et le Canada. Mais entre Washington et Pékin, la guerre commerciale suscite des commentaires sur l'état et l'avenir de la mondialisation, Jacques.
Eh oui Clara, œil pour œil, dent pour dent, c'est ainsi qu'on peut la résumer. Une conséquence du même genre d'émotion, la peur et l'orgueil qui déclenchent de vraies guerres, observe Gideon Rachman dans le Financial Times, un article relayé par Courrier International qui publie un dossier consacré au sujet. Si les deux rivaux sont prêts à prendre le risque de se lancer dans une véritable guerre commerciale, c'est parce que chacun croit pouvoir gagner, ajoute l'éditorialiste qui rappelle que lorsqu'une guerre éclate, toutes sortes de nouvelles armes sont développées. In fine, au terme de la surenchère sur les taxes douanières, l'arme ultime de la Chine pourrait bien se trouver dans l'achat de la dette américaine. Il lui suffirait de cesser d'acheter des bons du Trésor américain pour faire pression sur les États-Unis qui peineraient alors à financer leur déficit. Cela dit, on pensait jusqu'à présent que la Chine ne se débarrasserait jamais de ses titres de dette américains car cela ferait plonger la valeur de ses propres économies. Un jeu à somme nulle, question. Dans le monde diplomatique, Martine Bullard souligne l'initiative commune de la très branchée Silicon Valley, bastion démocrate, et de la très ancienne Rust Belt, la ceinture de la rouille, fief du président américain, et les géants de la sidérurgie, pour faire front commun contre la Chine. Mais en l'occurrence, il s'agit davantage de défendre les actionnaires que les ouvriers en colère, même si certains peuvent bénéficier de la lutte contre les importations à bon marché. C'est que le libre-échange, vanté un peu partout, y compris par Monsieur Xi, a laissé sur le carreau des millions de salariés à travers le monde et causé des dégâts écologique sans précédent, mais le protectionnisme entièrement tourné vers le libre profit tel que le pratique M. Trump ne changera guère la donne pour l'immense majorité des citoyens américains. Le bras de fer commercial risque donc de ne faire que peu de gagnants, voire aucun, conclut Martine Bullard qui se demande où s'arrêtera l'escalade. C'est le titre de son article, car la Chine, souligne-t-elle, se refuse désormais à faire profil bas, rejetant la doctrine du père des réformes Deng Xiaoping qui préconisait de cacher ses talents et d'attendre son heure. A contrario, l'actuel président a choisi de s'affirmer sur la scène internationale comme numéro un d'un grand pays, pour reprendre son expression, traitant d'égal à égal avec l'Amérique. Si Pékin aime à vanter ses résultats, 800 millions de Chinois sortis de l'extrême pauvreté, le pays a surtout utilisé en sa faveur les règles édictées par les nations les plus puissantes, États-Unis en tête, mais, ajoute Martine Bullard, rien n'obligeait les dirigeants occidentaux à ouvrir leur pays à tous les vents commerciaux, à encourager les délocalisations et à supprimer un à un leurs instruments d'intervention économique sous la pression des multinationales, lesquelles se sont ruées sur le territoire chinois. Et de souligner qu'aujourd'hui encore, plus de 4 exportations chinoises sur 10 sont effectuées par des entreprises étrangères qui maîtrisent la totalité de la chaîne du produit, de la conception à la vente, et engrangent le maximum de profits. L'exemple le plus connu est celui de l'iPhone d'Apple, assemblé en Chine, mais dont la part chinoise ne représente que 3,8% de la valeur ajoutée, quand 28,5% reviennent aux États-Unis. C'est ce que rappelle également Zaki Laïdi dans sa contribution au dossier de la revue Le Débat sur les troubles dans la mondialisation. Il y insiste sur le fait que les chaînes de valeur ont profondément modifié la nature des enjeux commerciaux. Le schéma selon lequel un pays exporte un produit fini vers un autre est aujourd'hui presque obsolète. Plus de 6 voitures allemandes sur 10 vendues aux États-Unis sont fabriquées dans le pays. Le cas de l'iPhone l'illustre autrement. La valeur ajoutée par sa fabrication chinoise est négligeable. Les chaînes de valeur constituent de fait l'instrument le plus effectif contre le protectionnisme, car en taxant des produits importés, on accroît le prix du produit final, utilisant ces produits importés comme intrant. Le système commercial multilatéral du GATT à l'OMC s'en trouve concrètement renforcé. Reste que dans un monde devenu largement multipolaire, le multilatéralisme, qui était l'horizon d'une mondialisation régulée et profitable à tous, est désormais entré en crise du fait notamment de ceux qui ont su en profiter le plus, comme la Chine. Et si les États-Unis ne sont plus assez puissants pour dominer le jeu commercial multilatéral, ils demeurent redoutables dès qu'ils en sortent, même s'il faut rappeler aussi que le jeu a été et demeure largement favorable aux intérêts américains. Dans Les Échos, Dominique Moisy estime que la confrontation Chine-Amérique est le risque majeur des années à venir. Les deux, je cite, les deux premières puissances mondiales sont poussées, l'une pour Washington, par une volonté de se retirer du monde trop vite, et pour Pékin, par le désir d'imposer son nouveau statut trop rapidement.